Jordi Savall, bonsoir. Pour vous présenter rapidement, vous êtes l'une des personnalités majeures de ce qu'on appelle les musiques anciennes, ces musiques qui commencent au Moyen-Âge et qui, dont on situe enfin, qui vont du Moyen-Âge à la première moitié du XVIIIe siècle, même si sur des enregistrements récents, vous vous êtes aussi intéressé à Schubert, Beethoven, Mozart. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Vous êtes, je pense que la plupart des gens qui sont là le savent, vous êtes aussi un spécialiste mondial de la viole de gambe, instrument qui a été rendu populaire auprès d'un grand nombre, du grand public avec la BO du film Tous les matins du monde que vous avez enregistré au tout début des années 90. Vous êtes par ailleurs directeur d'un certain nombre de formations, le plus connu étant Hesperion 20, devenu Hesperion 21 avec le changement de siècle, et le Concert des Nations, et excusez mon accent français, la Capella Real de Catalunya, la Chapelle Royale de Catalogne. Vous venez à Bordeaux ce soir pour jouer un répertoire de, excusez mon accent français encore, de Folias et Canarios, donc ces Folies et Canaries, qui sont des musiques destinées au départ à la danse et que vous affectionnez particulièrement, puisque vous les jouez, je crois, depuis vos années d'études, dans les années 50. Donc la première question pourrait être, qu'est-ce qui vous intéresse dans ces musiques de danse? Pourquoi leur avoir consacré cette part aussi importante de votre vie?
Bon, c'est très simple parce que quand la musique instrumentale s'indépendise, devient indépendante de la musique vocale, ce sont des danses qu'on joue et sous lesquelles on improvise, ou des chansons qu'on joue et on fait des ornementations. Donc les premières pièces originales de la Renaissance pour des instruments sont canzoni da suonare, c'est-à-dire des chansons qui n'étaient pas prêtes pour chanter, mais pour jouer, ou des recercadas. Recercadas, ça veut dire rechercher de nouveau. La plupart du temps, comme ce que je joue ce soir, sur une basse qui se répète. On appelle ça en italien ostinato. Une basse qui se répète et sous laquelle on développe des variations et on développe cette recherche quelque chose de nouveau. Et aujourd'hui, je jouerai au début du concert quelques exemples de Diego Ortiz, qui est un des premiers à publier à Rome en 1553 un traité de l'ornementation, Tratado de Glossas, qui est un traité d'ornementation dans lequel il y a des pièces pour viol seul, il y a des pièces sur une cantus firmus, l'Espagne. Il y a des pièces sur deux chansons, 12 mémoires et une autre chanson italienne. Et à la fin, il y a une dizaine de pièces sur des basses ostinées. Et ces basses ostinées sont la Folia, la Romanesca, le Ruggiero, le Passamezzo Antico, Passamezzo Moderno, toutes des danses qui existaient et qui étaient dans une forme de rondo et se répétaient. Et c'était l'idéal pour pouvoir développer des variations. Donc, tout ce répertoire, ça m'a beaucoup intéressé parce que ça montrait de quelle manière les instruments devenaient quelque part central dans la développement de la musique. Il ne faut pas oublier que cet art de la variation développe après, ça va jusqu'à pratiquement à l'époque de Schoenberg. Ça ne s'arrête au moment qu'il y a le dodécaphonisme, qu'on développe une autre manière de composer. Mm-hmm. Donc, Beethoven, c'est l'art de la variation, de l'art de l'instrumentation. Les symphonies de Beethoven sont une grande fresque où c'est l'art de la variation, se développe d'une manière absolument fabuleuse. Mais tout ça a ses origines dans ces débuts de la Renaissance. Et ce qui est caractéristique aussi, que la folie, qu'on connaît surtout sur les variations de Corelli, aujourd'hui aussi sur Maramaré, des variations de baroque, du 17e, fin 17e, comme des pièces lentes, les vraies folies qui démarre vers la fin du XVe siècle, ce sont des chansons populaires, ce sont des danses de bergers, des danses de, amusantes, et ce sont des rythmes rapides. Donc, tam, pa, pa, pam, ta, ram, ti, li, 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 tam, 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 tam. Ça se devient plus lente avec surtout l'influence de la cour. Les gens du village ne se perdaient pas beaucoup de temps à faire des pièces languissantes. Ils avaient besoin des pièces pour avoir un peu de joie de la vie. La vie était déjà assez dure, donc quand ils dansaient ou chantaient, ils cherchaient à avoir des chansons et des danses un peu joyeuses. Mais à la cour, on avait des autres manières. D'abord, on s'habillait bien, donc on n'avait pas une chemise et une petite pantalon, sinon on avait des robes, on avait des perruques, et tout ça faisait impossible de chanter et de jouer dans le même tempo que jouaient les villageois. Et ça, donc, ça fait que toutes les danses qui, au 16e, 17e, étaient vivantes, et dans la cour, deviennent des danses beaucoup plus lentes et beaucoup...
Comment avez-vous fait pour retrouver les modes de variation, les modes d'improvisation qui correspondaient à la façon dont ces musiques étaient jouées au 16e, au 17e siècle? Où est-ce que vous êtes allé chercher des sources?
Mais c'est dans toutes les musiques, il y a plein, à part les traités, comme je viens de le dire, toutes les pièces qu'on publie à ces époques-là, que ce soit pour les luttes, que ce soit pour la vihuela, que ce soit pour la guitare, que ce soit pour l'orgue, pour le clavecin, tous sont des pièces dans lesquelles il y a souvent des variations. Il y a deux genres de musique qu'on compose à cette époque. Il y a les fugues, les canzona ou les tientos, de tenter de jouer les contes. Et il y a aussi les glossas, les ornementations. Et tout ça se développe. Donc, si la seule manière de connaître comment on improvisait à cette époque, on jouait, c'est d'étudier ces musiques, de les jouer et de développer. Donc j'ai passé beaucoup d'heures à jouer ces musiques dans toutes sortes de combinaisons, avec ensemble de viol, avec ensemble de vent, avec des instruments différents. Et comme ça, on se rend compte du langage de cette époque, qui est très varié, parce que c'est pas la même chose le style espagnol que le style italien, que le style français, et ça se développe dans différents moments, à des différentes époques. Parce que la Renaissance... La plus ancienne Renaissance commence en Italie, en Espagne, vers la fin du XVe siècle. Après aussi en France, en Angleterre, en Allemagne. Mais par exemple, les points les plus culminants de la musique, c'est dans chaque pays des moments différents. Et tout ça évolue et ça fait des styles différents.
Vous disiez notamment que l'Espagne a eu une particularité dans son rapport à l'improvisation du fait de ses liens beaucoup plus importants avec le monde musulman que d'autres pays européens.
Exactement. Si vous voulez, l'Espagne est le seul pays de l'Europe qui a une vie commune très rapprochée, même s'ils sont des règnes différents, mais il y a dans la péninsule ibérique, il y a pendant 700 ans, les cultures arabes-andalouses, l'andalou, et la culture juive. En Espagne, il y avait une grande communauté juive partout. Donc, ces musiciens, ces cultures faisaient leur musique, et cette musique était partagée. On disait que pour les mariages, à l'époque du XIIIe siècle, les musiciens qui étaient plus appréciés, c'était les musiciens orientaux, qui avaient des musiques et choses beaucoup plus raffinées, beaucoup plus développées qu'il y avait les chrétiens. Il ne faut pas oublier que quand l'Espagne devient chrétienne, c'est avec l'époque wisigothe. Nous sommes des barbares, en fait, cette époque-là. On se baigne une fois à la semaine, peut-être. Tandis qu'à la même époque, dans Grenade, il y avait une culture raffinée, le bain c'était quelque chose de quotidien, il y avait des fontaines, il y avait toute une culture beaucoup plus subtile et beaucoup plus délicate, aussi musicalement. En fait, les troubadours n'auraient pas existé sans les modèles des yarchas en arabe andalouse du 10e, 11e siècle. les troubadours qui échangeaient des informations se sont inspirés de ces chansons d'amour qu'on faisait à la cour de Grenade, de Cordoba. Il ne faut pas oublier aussi que Cordoba, par exemple, était la plus grande bibliothèque qu'il y avait à cette époque dans toute l'Europe, une bibliothèque avec des milliers de volumes et d'une richesse extraordinaire. Tout ça donc explique que l'Espagne développe un échange de manières de faire la musique, de manières d'aborder très riches, qui n'ont pas les pays qui sont restés seulement en contact avec la culture occidentale. Ce qui fait que même après l'expulsion des Juifs et après la fin de ce qu'on appelle la Reconquête, il reste de beaucoup d'influence, même si on sait que l'Espagne a fait tout le possible pour annuler toute la trace de la culture arabe et juive. On était tellement puristes à cette époque, tellement fanatiques, qu'on a interdit la lutte. C'est le seul pays dans toute l'Europe où vous ne trouvez pas une seule composition pour la lutte. C'était un instrument qui rappelait trop l'époque musulmane et on ne voulait pas avoir des rapports avec ça. Donc ce n'est qu'une nulle part. Mais en Espagne, on ne jouait pas les luttes. On jouait peut-être dans des villages encore où il y avait des instruments. Mais dans la cour, c'est la vihuela. C'est un instrument qui rassemble une guitare qui a été jouée, qui a été remplacée, le luth, et sur lequel il y a des très très belles musiques de beaucoup de compositeurs à cette époque. Mais la viole de gambe, si, existait. La viole de gambe est née dans la région de Valencia et qui était très en contact avec aussi l'Italie. Et la viole de gambe, qui est un instrument aujourd'hui qu'on les connaît avec 6 ou 7 cordes, à cette époque avait 5 cordes. Et je dis souvent, de manière symbolique, est un mariage entre le luth médiéval et la viole médiévale. Quelqu'un a eu l'idée un jour de faire un instrument qui aurait l'accord de la luth médiévale, mais qui serait joué comme une vielle. Donc on avait 5 cordes et on avait des frettes et on le jouait appuyé sous les jambes. Mais à la même époque, on jouait aussi la fidula ou le rebec qui est joué dans les bras, surtout quand on accompagnait les danseurs. Donc voilà, tout ça, c'est des choses, c'est une évolution très importante qui se fait et qui est intéressante parce que vraiment, ça permet de développer l'art de la musique. Mais il y a une anomalie qui se produit par rapport aux autres arts. Parce que souvenez-vous que la Renaissance commence après la découverte de la civilisation grecque. Le nom de Renaissance vient d'un art qui renaît, inspiré d'une culture déjà vieille de plus de 1500 ans. Mais il y a un phénomène spécial qui se produit. Tous les artistes découvrent les magnifiques architectures, les beaux textes poétiques, les belles sculptures, les peintures, tout. Mais on ne peut pas écouter une seule mélodie de cette époque-là. On le peut lire dans les traités combien la musique était importante. On sait que dans les pièces de théâtre, on chantait, on jouait, mais aucune musique arrive aux musiciens de la Renaissance. Donc, quand vous lisez dans une histoire de la musique la Renaissance musicale, je vous dis, c'est faux, parce qu'il n'y a pas de Renaissance musicale. La musique continue à se développer en pensant, en plus, qu'il y a du progrès. Parce que, tandis que les peintres ou les architectes ont dû accepter qu'il n'y avait pas de progrès, parce que 1500 ans, on faisait des choses plus belles et plus sophistiquées que l'époque, dont le progrès, c'est quelque chose de très relatif. Mais la musique, on pensait qu'il y avait. Donc, qu'est-ce qui se passe? Que chaque jour, chaque époque, à un moment, il y a des compositeurs qui composent la musique. D'abord, on connaît celui de Notre-Dame, les premiers qui commencent à inventer des polyphonies au Codex Lasbergas dans les monastères en Italie. Et tout à coup, on commence à faire la musique à plusieurs voix. Et donc ça, c'est le début du langage musical européen qui se différencie à partir de là du langage oriental. Le troubadour, c'est encore des mélodies comme on a dans la musique orientale. Mais à partir de Notre-Dame, à partir de cette époque-là, on compose à plusieurs voix. Et là, il y a un grand changement qui se produit. On découvre les harmonies, on découvre les accords, on construit des modes et des systèmes. Et là, il commence les premiers compositeurs. Vous connaissez Machaut, Dufay. Après, il y a Josquin. Après, Palestrina, Victoria. On continue. Et chaque fois qu'il y a un nouvel compositeur, la plupart du temps, on oublie les vieux parce qu'on pense, oh, ça s'est déjà passé de. C'est plus bon. On a maintenant Josquin, c'est beaucoup mieux que Dufay, c'était un peu archaïque. Après, on découvre Monteverdi, bien sûr. Qu'est-ce qu'on écoute si on écoute Monteverdi? On oublie Palestine. Et ça continue. Même Stendhal, en 1804, il écrit dans son livre Les vies de Métastase, Haydn et Mozart, il écrit « Aujourd'hui, on est arrivé au plus haut niveau de la composition musicale avec Haydn et Mozart, et pas comme ces anciens musiciens, même les Flamands qui composaient la musique comme on faisait des petites peintures. C'est bizarre que les grands poètes, soldats espagnols, comme le cite, de ces pays du soleil, on n'a aucun musicien de valeur. » Ils ne connaissaient pas ce qui se passait. Même, je vous dirais, vous connaissez les Vêpres de Monteverdi, n'est-ce pas? Les Vêpres de Monteverdi sont donnés la première fois à Mantova en 1610. Et vous savez quelle année la deuxième fois? Personne ne sait? 1945. Entre 1610, personne ne s'est intéressé à ces chefs-d'œuvre. Parce qu'on passait à des autres choses. Et ça change. J'ai fini l'histoire.
C'est vous que les gens viennent écouter.
Non, parce que ça change un jour à Berlin de 1829. Un jeune compositeur et directeur d'orchestre présente aux Berlinois un chef-d'œuvre vieux déjà de 100 ans, La Passion selon saint Matthieu. Et là, tout change. Là commence la véritable renaissance de la musique. Parce que là, on commence à récupérer ces patrimoines anciens. D'abord, on les joue avec les instruments d'époque, mais ça tarde encore une bonne centaine d'années. Hein, qu'on joue ça, on découvre un peu à peu donc Handel, Bach, en France, les grands compositeurs baroques. Mais il faut attendre pratiquement jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale pour qu'on commence à jouer les instruments de l'époque. Ça, c'est une grande révolution qu'il y a. Et peu à peu, entre les années 50 et 70, on commence à avoir beaucoup de musiciens qui s'intéressent. Et là, ça change. Là, on commence à découvrir ces répertoires anciens tels qu'ils étaient joués à l'époque. Et comme ça, on récupère quelque chose qui nous était caché. Et c'est un peu, je parle de ça, c'est comme si aujourd'hui, le musée du Louvre, jusqu'à les années 60, vous pouvez voir seulement que les œuvres des peintres d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, vous allez au Louvre, vous pouvez voir les choses les plus anciennes jusqu'à la plus nouvelle. Mais avec la musique, ça, ce n'est pas possible. Seulement s'il y a des musiciens qui apprennent à jouer ces musiques médiévales, ces musiques de la Renaissance. C'est pour ça qu'il n'y a pas de musée de la musique. Même s'il y a des musées de la musique sur des instruments. Parce que la musique existe seulement, la musique vivante existe seulement quand on la chante et on la joue. C'est pour ça qu'on aura toujours besoin des interprètes, des chanteurs, des musiciens pour faire la musique.
Alors précisément, ce moment dont vous parliez, où vous êtes revenu à ce répertoire d'avant la période classique, schématiquement d'avant Mozart et Haydn, vous, qu'est-ce qui vous a amené à aller vers lui? Vous aviez suivi le travail déjà de gens comme Nicolas Sarnoncourt ou Gustave Léonard pour avoir envie de creuser ce qui s'était passé avant l'époque classique?
Écoutez, moi, quand j'ai découvert la musique ancienne, en fait...
C'était quand? Quand est-ce que vous découvrez la musique ancienne ?
Quand j'ai découvert la musique ancienne, j'ai découvert la musique ancienne déjà quand j'étais petit chanteur. Avec 7 ans, j'ai chanté la polyphonie, le chant grégorien. Mais après, quand j'ai choisi le violoncelle pour étudier, j'ai fait surtout la musique romantique. Donc je passe de 14 ans à 24 ans, où j'ai fait mes études, le service militaire et d'autres choses. Donc j'ai joué surtout la musique romantique. J'étais tout le concert où il y avait des grands chefs d'orchestre qui venaient à Barcelone. J'ai entendu les Selvidac, Scherchen, beaucoup de musique de répertoire symphonique. Mais il y a un jour, quand j'ai commencé le violoncelle, j'étais autodidacte, je me suis acheté toutes sortes de partitions, et les partitions qui étaient souvent étaient des transcriptions de pièces de viol de Gombe, qui étaient très belles, sonates de Bach, Maram Marais, et j'ai joué le violoncelle avant que j'entre dans les rouleaux de conservatoire. J'ai joué les musiques que j'aimais, et c'était Maram Marais, c'était Ortiz, c'était Bach, etc. Mais donc, quand j'ai fini mes études, j'ai fait la musique de chambre et je jouais beaucoup, j'aimais jouer beaucoup la musique baroque. Et là, je découvre la viole de Gombe. Et le changement se fait. J'ai une possibilité à Barcelone de jouer dans un ensemble de musique ancienne. Et là, j'apprends à jouer la viole de Gombe aussi comme autodidacte pendant 3 années. Et j'ai fait des voyages à la Bibliothèque nationale, au British Museum. Et là, je découvre Maram Marais, j'ai dans ma table tous les livres de Maram Marais, j'ouvre, oh mon Dieu, le tombeau de Sainte-Colombe, la rêveuse, les folies d'Espagne, le labyrinthe, une pièce plus belle que là, je ne croyais pas mes yeux. Tout ça est resté dormant dans les archives, personne ne jouait ces musiques, il n'y avait pas d'édition. Je commande tout de suite des microfilms, et je rentre à la maison, j'ai projeté d'abord les microfilms avec un projecteur parce que ça coûtait très cher de les imprimer. C'était pour là, s'il faut faire comme une photo. Et avec cet appareil que je pouvais voir dans la, souvent cité dans une paroi blanche dans la cuisine, et là, j'ai projeté ces musiques et je les ai découvertes. Après, j'ai pu les imprimer. Mais en fait, c'est en ce moment-là que j'ai décidé de laisser le violoncelle. Ça, c'est dès les années 67, 68. Et là, je continue sur le violoncelle, j'ai un baroque, j'ai joué avec la petite bande, avec Gustave Léonard et des autres ensembles. Mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est de faire connaître ces répertoires qui étaient abandonnés de Couperin. C'est pour ça que mes premiers disques que j'ai fait avec la Maison Astrée, c'était les pièces de viol de Couperin et les pièces de second livre de Maram Marais avec les Folies d'Espagne et la suite en si mineur avec les tombeaux pour Monsieur de Lully. Donc on découvre un nouveau chant. Et là, c'est une époque très belle parce que, on a de jour en jour plus de public qui vient au concert. D'abord, les concerts se font, il y a 200, 300 personnes dans la Chante-Chapelle. Mais peu à peu, il y a une belle ambiance. Je obtiens finalement, après mes études, la place à Bâle, j'enseigne, et tout entre dans une dynamique très, très belle, parce qu'il y a de plus en plus d'intérêt pour cette musique, et de plus en plus aussi de jeunes musiciens qu'on peut partager cette passion.
On était à l'époque dans les soubresauts de 1968, qui a été une année importante en France, en Allemagne, aux États-Unis. Est-ce que ça avait un rapport avec le fait que, d'une certaine manière, vous étiez les rebelles de la musique classique ? Vous proposiez un chemin de traverse, une alternative à l'académie de la musique classique.
Oui, moi j'ai décidé d'aller travailler à la Scola Cantorum justement en 68. C'était une année extraordinaire. D'abord, il y a le printemps de Prague. Il semblait que tout allait fantastique. Après, il y a le mai en France, qui était la folie. On pensait qu'on pouvait conquérir le monde et que tout est possible. Malheureusement, après, il y a les temps qui arrivent à Prague en mois d'août et tout se gâche. Mais c'est une année qu'on pouvait rêver. On pouvait rêver qu'on pourrait changer le monde. Et moi, j'étais cette année que j'ai fait mes études à Bâle et j'ai fait mon diplôme en 70. Et 3 ans plus tard, j'ai gagné la place de mon professeur à Bâle. C'était dans ces contextes-là que j'ai découvert avec mon épouse des musiciens comme Hankinson Smith et des autres, avec lesquels Todd Kaufman, on fait les premières ensemble. Mais j'ai fait beaucoup de musique à cette époque aussi. J'ai fait des concerts avec William Christie quand il n'y avait pas encore les Arts Florissants. On faisait des concerts avec un ensemble qui s'appelait The Five Centuries Ensemble. On jouait des musiques de Monteverdi et entre-temps, on faisait des musiques contemporaines de Merton Feldman, etc. C'était amusant. On était quand même assez jeunes.
Il y avait beaucoup de liens entre vous et d'autres directeurs musicaux comme Philippe Hervaig, Christophe Coin, qui est arrivé un peu après, ou peut-être Alfred Deller aussi, qui à son époque...
J'ai connu Alfred Deller à cette époque-là, oui. J'ai assisté à des stages que faisait Alfred Deller avec Gustav Leonhardt. Oui, mais Philippe Hervaig, Ton Gombe, c'était de ma génération. On était tous passionnés par chacun dans son domaine.
Vous aviez des échanges entre vous ? Vous vous écriviez régulièrement ? Vous échangez des informations ?
Non. À cette époque, c'était chacun devait lutter pour soi. On se trouvait souvent dans les festivals. C'était très important, les journées de musique ancienne à Versailles, par exemple. Là, on s'est trouvé très souvent avec beaucoup d'ensembles. On pourrait présenter des programmes. Et heureusement, il y avait beaucoup de lieux qui s'intéressaient à la musique ancienne en Europe, mais aussi en France. Et ça a aidé beaucoup. France Musique était très important. Jacques Merlet, par exemple, était une spécialiste de la radio qui a fait beaucoup, beaucoup de bien parce qu'il invitait les jeunes musiciens. Il parlait de la musique ancienne. Il était passionné de cette musique. Bon, Madame de Chambure, qui m'a prêté une viole et qui m'a invité à jouer dans ses concerts musique d'autrefois. Il y a beaucoup de personnes qui étaient vraiment passionnées de la musique et ça a permis que cette musique se développe très bien.
Entre les instruments que vous trouviez au début de votre carrière dans les musiques anciennes et ceux que vous trouvez maintenant, vous avez senti une évolution ? Est-ce que maintenant les fabricants d'instruments proposent des instruments qui sont plus en rapport avec les modes de jeu de cette époque-là? Est-ce que vous avez des échanges aussi avec les luthiers avec...
Bien sûr, à cette époque-là, on cherchait toujours d'avoir un bon luthier qui construisait un bon instrument.
C'était rare ?
Pardon ?
C'était rare ? C'était difficile de trouver des luthiers qui comprenaient ?
Non, il y en avait quand même quelques-uns. C'était rare dans le sens que ce n'était pas énorme. Mais il y avait partout. Mais on cherchait tous désespérément à avoir des instruments d'époque. Parce que c'était... Moi, j'ai dit toujours, j'ai appris vraiment à comprendre la musique française quand j'ai eu ma première viole ancienne. Parce qu'un instrument moderne n'est pas encore mûr. N'a pas encore même si c'est bien construit, elle est un peu moins flexible, un peu moins chaleureux qu'un instrument ancien, s'il est bien conservé. Et toutes ces petites nuances qu'on fait avec la viole de gambe, enflée, profondeur, articulation, tout ça, j'ai pu l'expérimenter quand j'ai eu un instrument d'époque. Là, c'est comme si vous avez un cheval que vous faites comme ça et le voyez sans faire aucun effort. Et un instrument ancien qui est déjà joué et qui a vécu, il est disposé. Mais il faut le travailler aussi. C'est pas... Les instruments sont quelque chose de très vivant. Ça m'est arrivé deux fois que je suis parti pour diriger et quand j'ai rentré, j'ai pris ma viole et elle était fâchée. Très fâchée. Elle me dit « Non, tu m'as abandonné pendant trop de jours, maintenant tu vas souffrir. Il faut que tu me caresses bien et que tu me soignes et après je vais chanter comme tu veux. » C'est comme ça. J'ai eu même une fois une anecdote incroyable. J'avais fait pendant 4 mois, je suis allé en Amérique du Sud, au Japon. J'ai porté ma viole partout. J'ai pas arrêté. Et après, je rentre à la maison et 3 jours plus tard, j'avais un concert à Florence. Je pars de soirée avant, et j'arrive à l'hôtel, j'ouvre la viole pour essayer de faire un peu de la faire chanter et ça sonnait pas du tout. comme si c'était pas de bois, mais de pierre. Je me dis, oh, quel désastre. J'avais le concert le lendemain, j'ai dû chercher une autre viole, et le jour après le concert, je rentre à l'instant, je le porte à mon luthier à Barcelone, je dis, regarde, qu'est-ce qui se passe, elle est comme s'il était morte, littéralement. Alors, il a enlevé le chevalet, l'âme, il a laissé l'instrument reposer, et après 3 jours, il me dit, écoute, Jordi, ta viole était simplement complètement épuisée de cette rime que tu as fait. Elle était vraiment sans voix, sans voix. Et maintenant, elle va bien. Elle a laissé la viole reposer, elle a mis les cordes et l'instrument. Donc, vous voyez, mon épouse m'a dit, voilà, tu comprends maintenant comment on perd la voix aussi. Un instrument peut perdre aussi la voix. Et de fait, il y a beaucoup de très beaux instruments comme le Stradivari qui sont extraordinaires, mais qui sont cassés. Ils ont une sonorité tellement jouée, tellement forcée, que vous jouez l'instrument pendant 10 minutes, mais après une demi-heure, l'instrument se perd le tonus. Parce que le bois est quelque chose de très fragile aussi. Et si vous le forcez, c'est comme un muscle. On peut casser un muscle de faire trop d'efforts. Et donc, il y a des instruments très anciens qui sont très beaux, mais qu'on ne peut pas les jouer plus longtemps parce que l'instrument ne résiste pas à l'effort.
Une bonne part de votre travail est aussi portée sur le dialogue avec l'Orient, avec des musiciens syriens, turcs, iraniens, afghans. Qu'est-ce que vous êtes allé chercher auprès de ces musiciens-là ?
Mais c'était quelque chose que j'ai découvert de très tôt, en fait, parce que quand j'ai commencé à faire la musique médiévale et j'étais à la Scuola Cantorum, on se rendu compte que nous étions des analphabètes. On ne savait pas comment accompagner une chanson de troubadour. C'était quelque chose qu'on n'apprenait pas au conservatoire, dans nulle part. Et il y avait une des musiciens qui savait parfaitement. Quand j'ai commencé à faire des chansons de troubadour avec mon épouse, ou des chansons séfarades, on a tout de suite demandé à des musiciens de Maroc ou d'Israël qui venaient à jouer avec nous. Et là, pour eux, c'était tellement naturel d'accompagner ces chansons. Donc j'ai compris qu'en fait, à l'inverse de nous, qu'on cherchait toujours le progrès, avoir des compositeurs meilleurs, tandis que dans le monde oriental, ils sont restés dans la même époque que le troubadour. Ils continuaient à jouer la musique mélodique et improviser. Et improviser et créer de la musique. Et c'est comme ça que j'ai appris vraiment à jouer la musique médiévale, avec le contact avec les musiciens de ces différentes traditions, très riches d'ailleurs, et que c'est pour ça que j'aime toujours beaucoup jouer avec des musiciens de ces cultures, parce que j'apprends tous les jours des choses qui eux, ils ont développées avec une richesse extraordinaire.
Vous disiez aussi que le contact avec ces musiciens vous avait aidé à comprendre la dimension rythmique de l'improvisation.
Bien sûr, parce que la dimension rythmique chez nous était restée très limitée. Si vous voulez, à partir de 1500, on ne trouve que les mesures à 2, à 3, à 4, à 6, à 8, à 12. Jamais aucun rythme régulier. En Espagne, on a encore des pièces à la Renaissance qui sont à 5. Ta-da-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Mais dans la musique orientale, vous avez des musiques à 5, à 7, à 4. De différents tons. Et ça montre la richesse de ces musiques. Et donc, j'ai beaucoup appris dans ce système de notation.
Au point, peut-être aussi, d'avoir souhaité travailler avec des musiciens réfugiés, comme lors du dernier projet que vous aviez présenté au Rocher de Palmer il y a 6 ans.
Bon, non, je n'ai pas voulu travailler avec des musiciens réfugiés pour apprendre d'eux, non. j'ai voulu apprendre à travailler avec des musiciens parce que j'ai vu dans quelle situation dramatique ils étaient. Donc, j'ai pensé... il faudrait faire quelque chose. Moi, comme musicien, je n'avais pas de ressources, mais je pouvais imaginer une chose, c'est-à-dire essayer de choisir des musiciens réfugiés qui avaient une culture musicale et qui pouvaient s'exprimer et pouvaient chanter, jouer. Et c'est comme ça qu'on a fondé Orpheus 21, qui permettait à ces musiciens d'avoir une vie digne, parce qu'au moment qu'ils pouvaient chanter des belles musiques, qu'ils jouaient, ils étaient vus, ils étaient écoutés, ils étaient respectés. Tandis qu'une émigrée qui n'a rien à vous apporter, on l'oublie. Ça embête plutôt, aujourd'hui, malheureusement. Donc, j'ai aidé quelques musiciens qui, aujourd'hui, font une carrière et qui sont vraiment reconnus comme excellents musiciens.
C'est votre manière à vous de faire de la politique, d'être un ambassadeur de la paix ?
Bon, je pense que chacun fait ce qu'il peut. Et moi, j'ai essayé de faire avec la musique quelque chose. Je pense que... il faut être utile. La musique sert à quelque chose. Si on l'utilise bien, ça fait que les gens soient plus heureux. Avec la musique, on peut transmettre aussi des émotions qui sont essentielles pour la vie aussi. Je pense que c'est normal qu'on aide, si on peut aider les personnes qui sont en détresse.
Très bien. C'est une belle manière de clôturer cet échange. Merci beaucoup, Jordi Savall.